Gloire à Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver autour de sa parole. Et parfois, quand nous finissons l'étude biblique, il y a une pointe de tristesse de devoir nous quitter. Parce que quand on est ensemble comme ça et qu'on étudie la parole ensemble, Je parle de mon expérience personnelle, c'est comme si, voilà, il y a une force plus grande que quand je lis tout seul. Et on voit cela dit en quelque sorte dans le psaume 133, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est vrai que quand on étudie seul, le Seigneur est là, quand on lit tout seul. Mais quand on est en plus ensemble, il y a une nuance qui se fait. Il y a Dieu qui est là, mais autrement encore, en force. Et souvent, quand ce moment-là finit, voilà, si on n'est pas attentif, c'est comme s'il y a un vide qui se crée en nous. Et comment faire pour qu'il n'y ait pas cette rupture? C'est de se souvenir de tout ce dont on a parlé, tout ce dont on a échangé, qu'est-ce qu'on a reçu, et pouvoir pratiquer. Je crois que c'est ça qui peut nous préserver de la chute qui peut venir après de tels moments. Lorsqu'on se sépare, il y a comme un vide. Donc, et pour éviter ce vide-là, se souvenir des choses que le Seigneur nous a dites pour les mettre en pratique, prendre des décisions par rapport à ce qu'on a entendu. Je crois que c'est ça qui permettra que ce flux de la présence de Dieu qu'on a reçu ensemble puisse continuer à fonctionner en nous. Prendre des décisions, voilà. Prendre des décisions par rapport à ce qu'on entend, faire des projets par rapport à ce qu'on entend et vivre en fonction de cela. Voilà. Comme ça, il n'y a pas la coupure. Voilà. Que Dieu soit béni. Nous commençons un livre spécial, hein, un livre spécial. Vous allez me dire, mais j'ai l'habitude de le dire, pour chaque livre. Effectivement, bon, chaque livre, chaque parole de Dieu, c'est important. Mais bon, le psaume, ça a quand même une place particulière. C'est déjà le centre de la Bible. Hein, donc, physiquement, c'est au centre de la Bible. Souvent, quand on cherche les psaumes, on divise à peu près la Bible à moitié. À la moitié, on trouve les psaumes. Et c'est aussi un recueil de prières et de louanges. Et nous savons que 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit « Priez sans cesse ». Et psaume 150 dit que « Tous ceux qui respirent louent l'Éternel ». Donc, la vie d'un enfant de Dieu est rempli de prières et de louanges. Du coup, le livre de psaumes se retrouve lu vraiment en grande partie, lu par la grande majorité des enfants de Dieu, beaucoup plus que les autres livres, parce que le livre de psaumes contient des scènes de vie hein, de chaque serviteur de Dieu, les luttes avec les difficultés, les luttes avec Dieu, tout ça est dedans. C'est la vie de l'homme face à Dieu à travers les prières, les louanges. C'est ça le livre de psaumes, prières, louanges. À l'origine, en hébreu, ça veut dire louange, tehillim. Ça veut dire louange. Mais le mot psaume vient voilà, d'une version de la Bible qu'on appelle la Septante, une version grecque. Et cette version-là, c'est elle qui a amené le terme psalmoi, c'est ce qui veut dire le chant chanté avec des instruments à cordes. Voilà. Et parfois, dans certains psaumes, on dit avec instruments à cordes. Voilà. Donc, c'est comme ça que. On a appelé ça plus tard psaume, donc chant exécuté avec des instruments à cordes. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passait souvent à l'époque quand les psaumes étaient lus. Il y avait une certaine musique en, en font. Et comme c'est un livre de prière et de louange, forcément, dans la louange, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve la présentation de Dieu. La louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Mais d'une manière globale, on peut inclure l'adoration dedans. C'est dire ce que Dieu est. Donc, quand on dit louange d'une manière technique, c'est ce que Dieu a fait. Mais d'une manière globale, ça veut, on peut inclure l'adoration, ce qui est le fait de dire ce que Dieu est. Il est tout-puissant, il est éternel, il est lumière, ça c'est l'adoration. Et la louange, c'est dire les réalisations de Dieu. Il nous a créés, il nous a sauvés, il a fait traverser le peuple dans la mer Rouge, le pied à sec. Donc ça c'est la louange. Donc là, quand on dit c'est un livre de prière et de louange, on inclut l'adoration dedans. Donc du coup, on va dire ce que Dieu est. On va citer ses hauts faits. On va dire certains mystères de Dieu, parce que dans toute la présentation de Dieu, on voit toujours son côté excellent et merveilleux. Donc forcément, quand on présente Dieu, on le loue. On le loue, et donc il y aura toutes sortes de présentations de Dieu dans les psaumes. Il y aura la présentation de son Fils, parce que c'est intimement lié. Il y aura l'exaltation de sa parole, puisque la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il y aura aussi les louanges portant sur ce que Dieu fait au milieu des hommes. Donc tout ça aussi sera cité. Et il y aura aussi la prédiction de l'avenir. Puisque l'avenir, c'est le règne total de Dieu. Donc tout cela aussi sera présenté. Il y aura son amour qui sera aussi présenté. Donc tout ce que Dieu fait de bien sera présenté dans les psaumes. Et comme c'est aussi un livre de prière, il y aura aussi un peu de l'homme dedans. Comment l'homme ressent les choses, comment l'homme souffre, comment l'homme doit réagir face aux choses. Donc il y aura des appels à la foi, mais il y aura aussi de descriptions, des cris de souffrance de l'homme. Donc il y a les prières, il y a la louange, mais dans tout ça, il y a la sagesse divine. Il y a la parole de Dieu. Les psaumes, c'est la parole de Dieu d'une manière concrète. Voilà. Donc, on présente la parole de Dieu agissante dans l'homme, qui doit être portée par l'homme d'une manière concrète. C'est la parole de Dieu. Les psaumes, ça comporte la sagesse de Dieu. Ça comporte les prophéties concernant l'avenir. Ça comporte des descriptions du passé. En gros, c'est la parole de Dieu. Et je pense que le premier psaume nous le montre clairement. Que les psaumes, c'est la parole de Dieu. Donc en introduction, Dieu nous montre que tout ce qu'on va faire là, tout ce qu'on va lire, oui, c'est des prières, oui, c'est des louanges, mais finalement, ça contient la sagesse de Dieu. Ça contient le message de Dieu, c'est la parole de Dieu. Voilà, ça contient les prophéties, ça contient tout, les psaumes. Ça contient l'œuvre de Dieu, la description de l'œuvre de Dieu. C'est dedans aussi. Les psaumes, c'est la parole de Dieu. Et vous savez, il y a des versions du Nouveau Testament où on rajoute seulement les psaumes comme livre supplémentaire. Donc il y a par exemple les Gédéons qui distribuent les Nouveaux Testaments dans les hôtels, dans plusieurs endroits. Et au Nouveau Testament, ils ont adjoint le livre de psaumes. Parce que le psaume, c'est vraiment une sorte de mélange de toute la parole de Dieu dedans. Voilà, c'est cela. Et nous allons commencer donc par ce premier psaume. Et les psaumes ont été écrits par David en grande partie. Mais pas tout. Donc il y a aussi Moïse, il y a Salomon, il y a Ethan, il y a Eman, il y a Asaph, le Lévite, il y a les fils de Corée, hein, des fils de Lévite, dont les Lévites, c'était eux qui avaient la charge de la louange au temple. entre autres charges. Voilà, donc il n'y a pas que David, mais les premiers psaumes, c'est David qui les a écrits. Donc là, nous sommes un peu dans l'écriture de David, dont nous commençons par le premier psaume après avoir fait l'introduction. Voilà, prière et louange.
Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine.
Amen. Voilà, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, on voit que ce psaume fait la différence entre deux personnes. Donc, il n'y a que deux possibilités sur terre. Il y a les hommes qui préfèrent s'asseoir selon les principes, donc avec d'autres, et discuter, vivre, fonctionner selon ce qu'on a vu hier, selon les principes de vanité de ce monde. Donc, c'est ce que l'apôtre Pierre dit. Donc, nous avons suivi nos pères dans leur fonctionnement. Ils fonctionnaient selon le principe de vanité de ce monde. Ils construisaient les choses en fonction de leur intelligence. Et on nous dit, il y a cette catégorie qui est qualifiée de méchants. Donc ces gens-là sont qualifiés de méchants. Et puis, il y a la catégorie des justes. Qui sont les justes? Ce sont ceux qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, ils considèrent la parole de Dieu comme étant importante. Voilà l'introduction de ce psaume. Donc, ce psaume nous introduit à tout le livre pour nous dire tout ce que vous allez lire, c'est la parole de Dieu. Et heureux êtes-vous si vous prenez ça au sérieux. Et par extension, toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Il faut l'étudier avec sérieux, construire sa vie autour de la parole. Donc, c'est dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel? Son plaisir, ses solutions, ses réponses, dans la loi de Dieu. On dit, ben, je vais chercher la loi de Dieu pour résoudre mon problème, pour prendre une orientation. Et qui la médite jour et nuit. Donc ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui considère que toute sa vie a pour socle les Écritures. Heureuses sont ces personnes-là qui vivent ainsi, qui posent des questions à Dieu, qui cherchent à bâtir en utilisant la Bible tous les domaines de leur vie. Quand on leur pose une question sur une orientation à prendre, ils disent, mais je vais lire la parole, je vais prier, je vais consulter Dieu. On n'est pas en train de parler des gens qui lisent pour lire, pour augmenter le volume de leur connaissance. On est en train de parler de gens qui méditent. Donc méditer, c'est réfléchir, échanger avec Dieu à travers sa parole. Construire sa vie, parce que la comparaison ne s'arrête pas là. L'idée ne s'arrête pas au verset 2. L'idée continue au verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc il y a l'image de l'homme qui prend au sérieux la parole, qui construit sa vie autour de la parole, sur la parole de Dieu, Il est comme un arbre. Un arbre s'agrandit. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment interaction. Ce n'est pas juste lire pour lire. Non, il y a interaction. Cet arbre est planté près d'un courant d'eau. Donc, qui est l'eau? Qui représente l'eau? C'est la parole qui donne son fruit en sa saison. Donc, c'est cette eau-là qui permet à l'arbre de croître. Voilà la comparaison qui est faite. Donc, nous sommes appelés à utiliser la parole pour répondre, construire, avancer, prier, chanter, donner des conseils. Tout doit tourner pour ces gens-là autour de la parole. On dit que ces gens-là sont comparables à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est quand même beau, c'est quand même extraordinaire. Vous savez, je n'ai pas su comment intituler cette partie dans les titres qu'on met sur YouTube. J'ai mis tout simplement la parole de Dieu, parce que dire la belle parole de Dieu, la formidable parole de Dieu, la merveilleuse parole de Dieu. Bon, j'ai dit, c'est tel, tout est dedans que je dis tout simplement la parole de Dieu. C'est le psaume 1, ça nous présente la parole de Dieu. Voilà la parole. La parole, ça construit. Ça donne la santé. Ça donne la paix. Ça prépare à l'éternité. Ça donne la vie éternelle. Ça permet de répondre aux questions difficiles. Ça permet d'éviter les pièges. La parole de Dieu, c'est tout. C'est ce qu'il dit, mais heureux l'homme. Heureux l'homme. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. C'est ça le grand conseil. La parole. Il est comme un arbre planté comme près d'un courant d'eau. Mais vous savez, un des problèmes de l'homme, c'est la patience. Vous croyez que frères et sœurs, si on sème une graine aujourd'hui d'un pommier, même si tu restes pendant 2 semaines en train d'observer la terre, tu n'auras jamais de pomme à l'instant. Ça prend un certain temps, le processus. Et ça, c'est ça qui explique que beaucoup ne bâtissent pas selon la parole de Dieu. Quand ils peuvent commander en un clic un article sur Internet, quand ils peuvent faire du café instantané, quand ils peuvent aller manger au restaurant. Aujourd'hui, parfois, dans des trucs comme les marques d'eau, tu ne vois même pas le monsieur, tu appuies sur une sorte d'écran et après on t'appelle pour te donner ce que tu as pris, tu as commandé. Quand on vit des choses comme ça, on a du mal après à s'attendre à Dieu dans une forme de patience liée à la construction divine. C'est ça qui caractérise notre époque. Les gens ne veulent plus vivre la parole de Dieu au rythme de Dieu. Ils veulent vivre les choses au rythme de ce qu'on voit dans le monde. Ils veulent vivre ainsi, au rythme du café instantané, au rythme d'Uber, Uber et les taxis. Donc, tu te connectes sur Internet, tu appuies, on te montre là où il est, comment il est en train d'arriver. Et il te prend, parce que quand tu appuies, donc c'est l'Uber qui est plus proche de toi qui vient. On te montre comment il arrive. Et quand il t'amène où tu vas, tout est clair sur l'écran. Donc quand on vit dans une société comme ça, quand il nous est demandé d'avoir la patience d'Abraham, de Moïse, de Joseph, beaucoup en retirent tout simplement la fausse idée que Dieu est lent. Et c'est ce qui est très faux, c'est la construction. Vous n'allez pas dire que les pommiers sont lents. Non, c'est comme ça que ça se construit. C'est comme ça que Dieu a placé les choses. Donc c'est très important, bien-aimés, d'accepter de vivre au rythme de Dieu. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu à travers sa parole, acceptons de vivre selon le rythme horaire de Dieu. Pas selon le rythme qu'on peut voir dans le monde, et même ce qu'on voit dans le monde, ça paraît très vite, ça paraît rapide, mais ça finit aussi vite, ça se casse aussi vite. Mais ce que Dieu construit, c'est du solide. Et c'est éternel. Dans le monde, on fait des raccourcis, chirurgie esthétique. Ça va très vite. Mais quelles sont les conséquences? Mais Dieu, ce qu'il construit, dure. Et surtout quand lui nous construit, sa chirurgie esthétique à lui, c'est quoi? C'est la résurrection. Quand nous ressusciterons, on ne vieillira plus, même pas d'une seconde. C'est fini. Alors le psaume 1 te dit quoi? Bâtis en fonction de la résurrection, au lieu de bâtir en fonction de la terre. C'est ce que le psaume 1 dit. Tu es comme un arbre. Un arbre, ça se construit. Bâtis en fonction de la parole. Heureux seras-tu. Mais quand tu suis le conseil, quand on dit le conseil des méchants, ça ne veut pas dire toujours, ça ne veut pas dire forcément tu voles, frappe. Ça ne veut pas dire ça. Le conseil des méchants, c'est la sagesse humaine aussi dedans. On te dit, bon, ne t'attends pas à Dieu, fais tes propres efforts. C'est la sagesse du monde. C'est comme ça qu'il faut gérer les hommes, c'est comme ça qu'il faut gérer les femmes. C'est le conseil des méchants, c'est la sagesse des hommes. Dieu a tout placé dans sa parole. On nous demande de bâtir selon la parole. Ça peut prendre du temps, mais on verra les fruits pérennes, des fruits éternels. C'est ça, bien-aimé, le conseil qu'on retrouve dans le psaume, le premier psaume, et on nous dit, ben, au verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Les gens souvent disent, ah oui, mais pasteur, nous voyons quand même des Bill Gates, les Bezos, quand même ils durent dans le temps, hein. Mais quelle est notre idée du temps? Ces gens-là, vous dites qu'ils durent dans le temps. Vous auriez dit la même chose si vous aviez mon âge, du temps où nous considérions Michael Jackson comme une sorte de créature éternelle. Quelqu'un qui ne vieillissait pas en apparence. Quand il avait 30 ans, il paraissait avoir 20 ans. Quand il avait 42 ans, il paraissait avoir 24 ans. Voilà. Mais tout ça, quand on regarde ça avec des yeux de calme, tranquille, sérieux, on se rend compte que c'est passé très vite. Mais quand on est en train de vivre ça, on a l'impression que le temps est long. Mais quand après que tout soit passé, on regarde bien les choses, on dit, mais finalement, c'est passé très vite. Oui, ça passera très vite. Les histoires de Bill Gates, tout ça, ça va passer très vite. À l'échelle de l'éternité, c'est ce que la Bible dit, ils sont comme la paille que le vent dissipe. À l'échelle de l'éternité, c'est ce que c'est. Mais quand on est accroché à notre temps, à nous, sans éclairage divin, on a l'impression qu'il règne depuis longtemps et ça continuera encore longtemps, ce qui est très faux. Ce qui est très faux. Bien-aimé, qui pensait que l'équipe de France allait perdre hier? Donc, quand on voyait le nombre de bons joueurs, en fait, à chaque poste, on a les meilleurs de meilleurs. Et ils ont eu la Coupe du Monde, les gens se sont dit, ben c'est fini là, une telle équipe, mais bon, donc il va encore engranger une autre coupe. Et certainement pas perdre devant la Suisse. Ça passe très vite. Du Deschamps sauveur au Deschamps perdant. Ça va très, très vite. Qui s'attendait. Donc, quand on voyait Didier Deschamps, on voyait le sauveur, le prince. Mais aujourd'hui, on voit le renard qui s'en va honteux. Ça passe très vite. Attention, bien-aimés, à comment nous regardons le temps. Parce que beaucoup ont souvent dit, on nous dit que les méchants, ça passe vite alors qu'on les voit traîner. Oui, mais vous les voyez traîner 20 ans, 30 ans, c'est quoi pour l'éternité, au regard de l'éternité? C'est quoi même au regard de ta propre vie? Ça passe très vite. Très, très vite. On se rend compte par la maturité. Et il est écrit aussi que c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Au jour du jugement, quand on va présenter aux méchants tout son comportement, ce jour-là, exceptionnellement, il aura la vraie connaissance. Au fait, tout sera clair. Ça ne veut pas dire que sur terre, ce n'est pas clair. Mais c'est clair, mais discutable. Comme là, on en dit par exemple que les méchants ne traînent pas. C'est clair, mais c'est discutable parce que pour certains, ils semblent aussi prendre du temps, les méchants. Mais le jour du jugement, nous verrons tous les choses d'une manière identique. Donc on verra bien que c'était petit, on verra bien qu'ils ont été fous. Eux-mêmes aussi verront qu'ils ont été fous. Clairement, il n'y aura pas discussion, pas que Dieu refusera la discussion. Non, c'est que eux-mêmes, ces méchants-là, diront « Ah, je me suis trompé, on s'est trompé, on a été fou. » Ils seront convaincus. Ils résisteront pas au jour du jugement. Ça sera très clair. Parce que, bien-aimés, nous, rien qu'avec l'âge, on se dit, mais finalement, les Michael Jackson, les Mohamed Ali, tous ces gens-là étaient dans la folie. Mais les gens qui vivaient l'époque où Mohamed Ali régnait, où il refusait d'aller au Vietnam et tout ça, ils le prenaient pour un super-héros. Où il devenait musulman pour s'opposer aux Blancs, tout ça. On le prenait pour un super-héros, mais ce n'était pas un héros. C'était un homme qui avait pris de mauvaises voies en négligeant l'Éternel, en négligeant le Fils de Dieu. Mais on se rend compte maintenant, quand on commence à tourner les pages, on se rend compte que mais finalement cet homme-là n'a pas vraiment profité de la vie. À 42 ans, il avait déjà la maladie de Parkinson. Nous, on a déjà dépassé 42 ans depuis longtemps. Donc finalement... Quand est-ce qu'il a pu jouir de la vie? Ça passe très vite. Rien que maintenant, on le sait. Maintenant, le jour du jugement, ça sera comment? Au fait, au jour du jugement, les choses seront tellement claires. C'est comme si tu te vois en film en train de t'empoisonner toi-même. Et toi-même, tu vas te dire, j'ai été fou. J'étais en train de m'empoisonner. Pourtant, un tel m'avait prévenu. Pourtant, un tel autre m'avait parlé. C'est ça qui va apparaître le jour du jugement. Les gens ne pourront pas dire, mais je ne savais pas. Non, ils vont aussi voir en même temps que Dieu les avait prévenus et qu'ils avaient fait fi de cela. Ils vont le voir. Je vous ai souvent raconté l'histoire de cet homme et de sa femme qui était athée, convaincu, qui ne voulait pas de Dieu. Et la dame avait attrapé le cancer. Et arrivée en phase terminale, un jour, elle s'est vue aller progressivement en enfer. Elle se voyait aller progressivement en enfer. Elle voyait les esprits de mort venir la chercher pour l'amener en enfer. Elle voyait tout ça clairement. C'est ça que le jour du jugement, ça sera comme ça. On voit les choses clairement. Elle a commencé, puisqu'elle n'était pas encore morte, elle a commencé à crier à son mari. Ils sont en train de venir me prendre pour m'amener en enfer. Fais quelque chose, je ne veux pas y aller. Elle criait. Le mari s'est dit, mais je veux faire quoi? Elle criait, elle a dit, on n'a pas cru à tout ça, c'est vrai. On s'est trompé, c'est vrai, l'enfer existe. Je suis en train de partir là-bas. Aide-moi. Le mari s'est souvenu que sa maman lui avait donné autrefois une Bible. Il a ouvert les placards, les tiroirs, il a fini par la trouver, la Bible, poussiéreuse. Il avait la Bible. Mais comment utiliser la Bible pour sauver sa femme? Il n'avait jamais daigné écouter une seule prédication. Il a toujours refusé de lire la Bible. Il avait toujours refusé de lire la Bible. Il voulait écouter personne qui lui parlait de Jésus. Et là, il avait la Bible en main. Mais comment l'utiliser? Il suffisait d'utiliser un seul verset. Car Dieu a tant aimé les hommes, le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un seul verset. Ce jour-là, et Romains 10, 13 qui dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Un seul verset. Donc il suffisait qu'ils lui disent, voilà, Jésus a donné sa vie pour nous. Nos péchés sont pardonnés par lui. Crie à Jésus. Romains 10, 13. Quiconque invoque le nom du Seigneur, Jésus est sauvé. Cette dame allait être sauvée. Mais comme pendant toute sa vie, ils avaient les deux, refusé d'écouter ne serait-ce que 10 minutes de la parole. Comment pouvait-il savoir même Jean 3,16? Vous savez, à mon dernier voyage en Guyane, dans la ville de Kourou, je bénis un frère ou une sœur ou une équipe qui a payé pour que... Vous savez, les panneaux publicitaires, il a payé pour que sur ces panneaux publicitaires, dans toute la ville, hein, j'en ai vu trois, moi, j'en ai vu trois dans la ville. À l'entrée de la ville, le panneau, il y avait déjà ça. Et à un moment donné, je faisais un tour dans la ville, j'ai vu deux encore. Vous savez qu'est-ce qui était écrit sur ces panneaux publicitaires? Jean 3,16. Dieu a tant aimé les hommes, le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a les voitures qui passent, les gens ne lisent pas. Il y a des gens qui courent, il y a des gens qui font des marches, des tours de vélo. C'est un grand panneau. Maintenant, le jour du jugement, vous voyez cette scène-là qui paraît une scène comme ça, quelconque. Le jour du jugement, ça ne paraîtra plus une scène quelconque. Au fait, le jour du jugement, donc on va montrer le film aux gens. Et ces gens-là verront cette scène comme si ils buvaient tout seuls eux-mêmes du poison au moment où ils passent le panneau sans le lire. Ce jour, il a dit, mais pourquoi je n'avais pas lu? Donc, il a l'impression que, quand on lui remet cette scène-là, il a l'impression que lui-même, il avait creusé son trou, sa tombe ce jour-là. Il dira jamais, oh Dieu, tu m'as fait ceci. Non, c'est clair, hein? Le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Donc, ce jour-là, le méchant, ce sera clair pour lui que c'est lui qui a été mauvais. Un panneau, si on avait mis la publicité d'une voiture ou d'un vélo, d'un haut-parleur, il allait lire, mais puisque dès qu'il a lu, car Dieu, il a changé de direction de regard. Et ce jour-là, ce changement de direction de regard, lui-même, il va l'interpréter comme, le fait de prendre un breuvage mortel, quoi. Et de lui-même, il va aller en enfer. Il saura que c'est lui-même qui a voulu ça. Il ne résistera pas le jour du jugement. Et cet homme-là a vu sa femme. aller en enfer. Il ne savait pas quoi faire de la Bible. Les choses sont devenues claires. J'ai été trop méchant pour lire la Bible, ne serait-ce qu'un peu. Voilà maintenant. C'est de ma faute. Vous savez, le jour du jugement, il n'y aura pas de débat. Les méchants diront, c'est de ma faute. C'est sur terre maintenant qu'ils osent faire des débats. Mais le jour du jugement, ça sera très clair. Très clair. Au point qu'il n'y aura pas de débat. Verset 5, la fin. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Et beaucoup se sont dit souvent, mais pasteur, pourtant, au milieu de nous, il y a parfois des méchants qui traînent, ainsi de suite. Oui, pour nous, ils traînent, mais pour Dieu, il a déjà vu leur fin. C'est ça. Après, il y a, quelque chose de cyclique. Il y a un groupe de méchants qui vient, ils ne vont pas résister, ils vont s'en aller. Ils se font remplacer par un autre groupe de méchants. Mais il ne faut pas penser qu'un méchant demeure indéfiniment au milieu des enfants de Dieu. C'est faux. Après, il peut y avoir des conditions où il y a comme une sorte de corruption au milieu de nous qui fait que le méchant aussi tient un peu. Voilà. Mais lorsque les vrais enfants de Dieu mettent la pression dans la prière, dans l'attitude, dans la vérité, dans la sainteté, les méchants peuvent être là. On a vu Jésus avec Judas. Mais ils ont un temps fixé par Dieu. Après, il y en aura d'autres qui viendront. Donc, il y aura toujours des méchants au milieu de nous, mais à chaque fois, ils ne résisteront pas. Quand les enfants de Dieu mettront la sainteté, la vérité, la prière en marche, ils s'en iront. D'autres viendront, ils s'en iront aussi. Leur temps sera fixé. Ils ne résistent pas. Nous, quand on dit « résiste pas », on pense que en un jour. Non. Donc, le Seigneur les utilise aussi pour notre perfection. Donc, il faut comprendre tout ça, mais il ne résiste pas. Tout est sous contrôle de Dieu. Donc, faisons confiance en Dieu, que Dieu les extirpera de notre groupe, tôt ou tard. Voilà. Donc, c'est cela. Et puis, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien-aimé, ça mène à la ruine. Tu n'es pas le premier pécheur. Il y a des gens qui ont aimé la cigarette avant toi. Il y a des gens qui ont aimé l'alcool avant toi. Il y en a qui ont aimé la débauche avant toi. Tu n'es pas le premier. Mais renseigne-toi sur leur fin. C'est un travail qu'on peut faire, non? Un exercice qu'on peut mener. Renseigne-toi sur les gens qui ont ton style de vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, renseigne-toi sur eux. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, toi, tu n'es pas encore rattrapé que ça sera ainsi. Renseigne-toi. Jacques Messrine a été tué, a été attrapé. L'ennemi public numéro un dans les années 70. Renseigne-toi. Toi qui fumes, renseigne-toi pour entendre ceux qui t'ont précédé, comment ils ont fini. Lorsque le médecin vient leur dire, ben écoute, tu n'as plus qu'une année à vivre, les poumons sont troués, renseigne-toi. Je connais un grand acteur américain, Yul Brynner. Il a fait une vidéo avant sa mort où il expliquait les méfaits de la cigarette. Sa vie a été interrompue rapidement à cause de ça. Renseigne-toi. Les gens violents, les gens aigris, les gens jaloux, renseigne-toi pour voir comment ils finissent. La voie des pécheurs mène à la ruine. Mais la voie des justes mène à l'éternité, au paradis. C'est ça que nous devons choisir. Que Dieu nous aide. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides, Seigneur, à choisir la voie des justes. Même si, en apparence, les méchants semblent prospérer plus que nous. En apparence, les méchants semblent s'en sortir. En apparence, le péché semble payer. Mais ta parole, notre passé, l'expérience vécue, nous montre que les méchants finissent toujours mal. Les gens qui sont dans des mauvaises entreprises, beaucoup se suicident. Les gens qui sont dans la prostitution, que ce soit masculin ou féminin, Seigneur, ces gens-là, beaucoup parmi eux finissent par se suicider. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à être patients dans la marche du juste afin de voir notre fruit sortir en splendeur dans l'avenir. Que nous te fassions vraiment confiance. Heureux ceux qui ont cru sans voir, dit le Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous passons au psaume 2. Il y a une question ? Ok.
Question Internet. Les chants prophétiques pratiqués dans certaines assemblées se réfèrent-ils au psaume 22 qui parle des souffrances du Seigneur ou est-ce une dérive de certains mouvements chrétiens ?
Alors, je ne sais pas de quel chant prophétique il s'agit. Moi, je me rappelle, quand j'étais dans la région parisienne, il y avait des danses prophétiques. Les chants prophétiques, je n'ai pas vu ça, je ne sais pas comment ça se passe, mais les danses prophétiques, donc on voyait des dames souvent habillées mal d'ailleurs, faire avoir, je ne sais pas comment ça s'appelle, des sortes de rubans longs qu'on fait virevolter comme ça avec des gestes d'arabesque, voilà. Donc, et en dansant, voilà, comme les danseurs étoiles, c'était léger, et je ne vois pas ça dans la Bible. Donc les gens vont vous dire, oui, mais il y a David qui a dansé. Oui, il était rempli du Saint-Esprit, mais rendre la chose comme ça systématique, s'habiller légèrement, et puis des femmes en plus, voilà quoi, c'était... Maintenant, on n'interdit pas la danse, mais on dit tout simplement les choses systématiques, il faut faire attention avec. Mais les chants prophétiques, là, je n'ai pas vu. Voilà, je ne sais pas exactement de quoi l'internaute veut parler. Voilà. Ok. Le psaume 2.
Chapitre 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. »
Amen, amen, amen. Psaume, capital. Le psaume 2. Il y a tant de richesses dans ce psaume. Voilà. Que peut-être on risque de finir avec ça. On avait prévu de lire aussi le psaume 3, mais le psaume 2, il est riche, il est très riche. Il nous est dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ? Ce psaume nous dit que les gens de la terre sont contre Dieu. Et non seulement ils sont aujourd'hui contre Dieu, ils sont même contre son oint. Souvent, les gens ont posé la question d'où vient le terme Messie. Le terme Messie vient de, ça veut dire oint. En grec, c'est Christos, donc en hébreu, c'est Machia, ça veut dire loin. Donc, contre son loin. Donc, ce texte, psaume 2, fait partie des textes de l'Ancien Testament qui prédisent l'existence d'un loin spécial. Pas d'un loin général, parce que les rois étaient aussi des loins. Les prophètes, c'était aussi des loins. Mais là, on parle d'un loin spécial. Parce que quand on va lire la suite, on va le voir. Parce que quand au verset 7, il est dit de cet oint-là, « Tu es mon fils !» Voilà. Donc, ce n'est pas n'importe quel oint. « Je t'ai engendré aujourd'hui. » Donc, ce n'est pas créé, mais engendré. Donc, ce n'est pas n'importe quel oint. C'est un oint spécial, le Machia. Donc, ce psaume nous présente le Messie avant le temps. Ça s'appelle un psaume messianique. Donc on ne pouvait pas tout dire dans l'introduction. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des psaumes qu'on appelle des psaumes messianiques. Ce sont des psaumes qui parlent du Messie avant qu'il ne vienne, donc 1000 ans avant. Et il y en a beaucoup. Donc il y a le psaume 2, il y a le psaume 16, il y a le psaume 22, il y a le psaume 110, il y a le psaume 45, il y en a d'autres encore. Mais voilà le premier d'entre eux, c'est le psaume 2, qui parle de l'animosité des humains face à Dieu et forcément face à son Messie. Au fait, ça rejoint quoi? On peut lire ça dans 1 Jean 2, versets 20 à 23, je crois. Parce que certaines personnes disent... Oui, mais on peut croire en Dieu et ne pas croire en Jésus. Mais non, mais comment vous pouvez croire en Dieu et refuser son oint, refuser son envoyé? C'est contradictoire parce que si vraiment tu connais Dieu, tu reconnaîtras en Jésus son fils. Tu verras ça clairement. À moins que tu ne te sois pas encore renseigné, que tu te renseignes sur le fils, tu vas savoir. On peut commencer au verset 22 alors. 22-23.
1 Jean 2-22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père.
Ça va ensemble, bien-aimé. Et on retrouve ce couple-là ici, dans le psaume 2, contre l'Éternel et contre son oint. Ça va ensemble. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il croit en Dieu et qu'il refuse le Fils. Parce que quand tu crois vraiment dans ton cœur en Dieu, Dieu te communique la notion de son Fils. Ça vient. Ça ne vient pas pour tout le monde au même moment, mais tous ceux qui croient en Dieu sincèrement, finissent par accepter l'idée du Fils parce que ça va ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Les gens n'aiment pas Dieu parce qu'ils en sont jaloux. C'est notre héritage adamique. Nous avions voulu, à travers notre papa Adam, nous avons voulu prendre la place de Dieu. Adam, c'est ce qu'il a voulu. On lui a donné le conseil par Satan, de manger du fruit défendu afin de rivaliser avec Dieu. Et ce conseil-là, ce travail-là, il est en nous tous, les enfants d'Adam. Nous avons toujours envie d'exclure Dieu, de faire autrement, de faire sans lui. C'est ce que décrit ce psaume. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi ces vaines pensées où on pense se débrouiller sans Dieu? C'est fou! C'est fou! On veut sortir Dieu du circuit. L'évolutionnisme, LGBT, transgenre, la théorie du genre, mariage pour tous, on veut sortir Dieu du circuit. Et le psaume de dit, mais c'est des vaines pensées. C'est des vaines pensées. Parmi les peuples, c'est dans tous les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Les gens sont contre Jésus. Partout, même dans l'église. Même dans notre église, si tu t'attaches beaucoup à Jésus, tu verras certaines personnes ne pas aimer ça. Parce qu'il y a une jalousie dans la chair en nous tous. Au fait, on veut maîtriser ce qu'on a donné à Jésus. Le jour où tu vois un chrétien donner à Jésus d'une manière exagérée. Tu dis, mais non, mais il n'était pas obligé de prier aussi longtemps. Il n'était pas obligé de faire tel sacrifice. Il y a une certaine jalousie contre loin de l'Éternel. Moi, pour moi, les chants doivent être faits comme ça. Non, on fait le chant pour Jésus. C'est à lui d'apprécier, ce n'est pas à toi. Pour moi, ça doit être fais comme ça la prière. Mais non, on prie Jésus. Ce n'est pas toi qu'on prie. Laisse les gens prier Jésus. Moi, bien aimé, ce principe m'a beaucoup aidé. Depuis longtemps, je me suis dit, je n'embêterai pas quelqu'un qui prie Jésus, qui prie Dieu. Voilà. Tant qu'il ne sort pas de la Bible, tant qu'il ne contredit pas la parole, s'il le fait en sa manière, il le fait en sa manière. Je ne dis pas que moi je ferai exactement comme tout le monde, non. Mais ce qui n'est pas bien, c'est que tu arrives dans un temps de prière où les gens prient le Seigneur. Toi, tu passes ton temps à observer. Oh, mais pourquoi il crie? Mais pourquoi l'autre est silencieux? Pourquoi? Oh, non. Laisse les gens prier Dieu. Toi, prie aussi Dieu. Commencez à regarder, mais chez nous, ça ne se fait pas comme ça. Mais oui, mais ça, c'est chez vous que ça ne se fait pas comme ça. Mais eux, ils prient Dieu. Bien, mais c'est ça. Tant que les gens prient Dieu sincèrement, laissons-les faire. Ne produisons pas des pensées en nous qui contredisent ça. C'est ce qu'on est en train d'appeler vaines pensées ici. Dans mon passé, il s'est fait que je sois obligé de passer par plusieurs mouvements chrétiens. Et surtout, quand j'étais étudiant au Maroc, puisque il y avait beaucoup d'étudiants boursiers de plusieurs origines, il a fallu s'adapter à comment chacun avait pris l'habitude d'adorer, de louer, de prier son Dieu. C'est bien aimé dans des contextes comme ça. Si tu considères que c'est ta façon, c'est la bonne, la meilleure, tu passeras ton temps à regarder les autres, à critiquer le sourire d'un tel, à critiquer la grosse voix d'un tel autre, ainsi de suite. Non. Tant que les gens prient Dieu sincèrement, c'est ça qui compte. Ne soyons pas jaloux de Jésus. Dis-toi, Jésus mérite d'être adoré, même si ce n'est pas comme moi j'aimerais. Voilà, il mérite d'être adoré. Je me tais, je me concentre moi-même sur Dieu. J'arrive dans une réunion, j'ai changé de pays, j'ai changé d'église. J'arrive dans une réunion, je prie mon Dieu, je laisse les gens prier, et Dieu nous amènera tous à la perfection. Voilà. On ne va pas commencer à juger, mais oui, mais il ne faut pas faire comme ceci, il ne faut pas faire comme cela, il faut que chacun fasse de telle manière. Non. Prie Dieu et laisse les autres prier Dieu. Donc il ne faut pas, entretenir de vaines pensées. Et nous voyons bien aimé cette jalousie-là contre le Seigneur partout, chez les musulmans. C'est clairement dit, Dieu n'a pas de fils. Le but, c'est d'éliminer le fils. Et nous venons de lire, Jean dit, si on n'a pas le fils, on n'a pas non plus le père. Ils veulent éliminer le fils. Vous savez, nous, au Maroc, on a eu des conseils, puisqu'on était des jeunes étudiants, il y a eu des gens, des aînés qui nous ont conseillé, ou pendant la lecture de certains livres, oui, quand on aborde les musulmans, il ne faut pas parler de Jésus comme fils de Dieu, parce que ça va les braquer dès le départ, et ainsi de suite. On avait accepté au début, mais quelques mois après, on s'est dit non, ce n'est pas nous qui disons ça, que c'est le fils de Dieu, c'est la Bible. Bien-aimés, les chrétiens, certains chrétiens veulent tellement réussir qu'ils veulent adapter la parole de Dieu aux humains. Non, la parole de Dieu n'est pas une parole humaine pour qu'elle s'adapte aux humains. C'est la présentation de Dieu. Moi, au lieu de dire, de ne plus dire, parler de Jésus comme fils de Dieu, j'ai recommencé à dire aux musulmans, Jésus est le fils de Dieu, il veut vous sauver. Ah oui, mais comment Dieu peut avoir un fils? Moi, je dis, mais comment il a eu Adam alors? Parce que pour eux, fils, ça veut dire relation entre homme et femme. Moi, je dis, mais et Adam alors? Comment il a eu Adam? Ah oui, ah oui, ah oui, voilà. Donc, Dieu peut avoir un fils sans qu'il y ait une relation entre un homme et une femme. Au lieu, comme on avait dit dans le séminaire, demander. Parfois, dans la famille, dans le couple, on a 500 euros, mais la femme veut qu'on achète A, l'homme veut qu'on achète B. Mais au lieu de vous quereller, priez que Dieu vous donne pour A et B à la fois. Parfois, les gens se querellent. Ah non, 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 avec cet argent-là, que parfois il y a des rappels qu'on n'avait pas prévus, c'est ce qu'on appelle une cagnotte qui tombe comme ça. L'homme dit, mais non, mais moi je voulais acheter les pneus de ma 4x4. Ah oui, mais moi je voulais acheter telle chose pour les enfants. Ah la guerre. Mais non, vous êtes des chrétiens. Dites, Seigneur, lui il veut les pneus, moi je veux ça. Alors rajoute, ce n'est pas suffisant ce que tu nous as envoyé. C'est simple. Au lieu de dire que Jésus ne pas parler de Jésus, omettre les détails qui sauvent, parce que si Jésus ne sauve pas parce qu'il est venu en fils de Dieu, attention, voilà, c'est ça c'est la caractéristique la plus importante. Donc, il est fils de Dieu. Voilà. Et donc, au lieu de ne pas dire ça, demandez à Dieu d'éclairer les musulmans par rapport à ça. C'est tout. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Afshin. Afshin a dit, un Iranien qui est devenu chrétien, il a dit, l'homme ne peut pas devenir Dieu. Parce que quand les gens rejettent Jésus en tant que fils de Dieu, il dit, mais Dieu, lui, est tout puissant pour se faire homme. Vous voyez, Dieu lui a donné l'éclairage. Quand on dit Jésus est Dieu, ce n'est pas qu'un homme est devenu Dieu. C'est que c'est Dieu qui est devenu un homme. Voilà. Pourquoi se priver de donner les qualités les plus élevées de Dieu, de Jésus? Oh non, il faut présenter aux musulmans Jésus comme un prophète et petit à petit. Non, il n'y a pas de petit à petit. On présente tel que ça vient. Donc on se rencontre avec quelqu'un, l'esprit nous conduit dans tout ce qu'on va dire. Voilà. Donc il n'y a pas à créer des contingences. Voilà. C'est l'esprit qui conduit. Si l'Esprit nous conduit à présenter Jésus comme le Sauveur sans dire qu'il est fils de Dieu, voilà, on suit. Mais apprendre des techniques qui visent surtout à ignorer sa qualité suprême de fils de Dieu, c'est ce qu'on vient de lire là. C'est les gens qui se liguent contre loin de l'Éternel, contre loin de l'Éternel, les musulmans contre loin de l'Éternel, les catholiques contre loin de l'Éternel, ils ont tout fait pour mettre Jésus de côté et mettre le pape à la place, puisque c'est écrit représentant de Christ, donc il n'y a plus Christ, mais le pape. Dans les milieux évangéliques aujourd'hui, c'est le pasteur qui a pris la place de Jésus. On ne demande plus aux gens de suivre Jésus dans les milieux évangéliques, surtout africains. On te demande de suivre l'homme que Dieu a établi. Bien-aimé, on ne dit pas le contraire d'une manière absolue. Mais comprenons ce qu'on veut dire. On veut dire, d'abord tu suis Jésus. Le vrai berger, le grand berger, c'est Jésus qui t'amènera auprès d'un petit berger pour t'encadrer ici sur terre. Mais on ne doit pas s'attacher à un homme comme si c'était lui le terminus. De sorte que quand ces hommes-là se comportent mal, ils font des péchés, on te dit, bon, c'est l'homme de Dieu, il n'est pas parfait, mais c'est lui que Dieu a établi. Non, s'il n'est plus à l'image de Christ, il ne faut plus le suivre. Dieu l'a établi ou pas? C'est ça le christianisme évangélique d'aujourd'hui. C'est l'homme qu'on suit. Pas pour nous amener à Christ, mais en lui-même, il est comme un terminus. Donc, il faut rester avec lui. Non, on suit l'homme pour qu'il nous amène à Christ. Voilà. Tout ça, c'est la jalousie de Jésus. Moi, je me souviens, une fois, on a voulu nous faire... À l'époque, c'était la mode. Un homme de Dieu, un responsable, doit faire une prière d'alliance avec ses collaborateurs afin qu'ils ne se trahissent pas, machin, truc. Et puis, notre pasteur de l'époque, il était parti en Belgique, il s'est fait contaminer par ces enseignements-là. Quand il arrive, il dit, bon, on va faire une prière d'alliance. Voilà. Au moment de faire la prière, bon, et il faut savoir que moi, je ne le soupçonnais pas comme un mauvais. Pas du tout. Pour moi, c'est un homme correct. Je me dis, bon, il vient d'écouter des enseignements et il veut les pratiquer. Mais au moment de faire la prière, avant la prière, je lève la main. Je dis, je veux dire quelque chose. Oui, oui, parle. Il dit, moi, je ne suis pas contre qu'on fasse une prière pour qu'on ne se trahisse pas, pour qu'on soit, on s'aime. Je n'ai pas de problème pour ça. Mais avant cette prière-là, puisqu'on allait se tenir les mains, avant cette prière-là, moi, je tiens à dire que j'appartiens à Jésus. Quand j'ai dit cette phrase-là, le pasteur s'est fâché. Moi, si quelqu'un chrétien me dit, pasteur, moi j'appartiens à Jésus, je serais content. D'ailleurs, l'objectif de mon travail, c'est de l'amener à dire cette phrase-là. Un chrétien qui me dit, mais pasteur, moi j'appartiens à Jésus, je dis, ah bon, avec lui j'ai fini le travail, je passe à quelqu'un d'autre. Lui, il se fâche. Ça veut dire quoi? Oh. Moi, je dis, mais j'ai dit, j'appartenais à Jésus. Oh, qu'est-ce que tu veux faire? Mais je dis, mais quel est le mal que j'ai fait? C'est trop tard, bien-aimé. Même quand on a prié, moi j'avais déjà dit à l'avance, j'appartiens à Jésus. Je suis dans sa main. Vos prières compliquées, ça ne va pas m'atteindre. C'est ça, bien-aimé. Les gens sont jaloux de Jésus. Il était jaloux que je dise j'appartiens à Jésus. Il voulait que j'appartienne à son alliance à lui. Même les gens qui se disent pasteurs ou parfois chrétiens, ils sont jaloux de voir que c'est Jésus le centre de tout pour toi. Il y en a qui vont sortir des phrases pour faire comme si ce n'est pas la peine de suivre Jésus. Ah, Jésus, lui, il était fils de Dieu. Il était Dieu. Donc, c'est pour dire qu'il ne subissait pas les choses comme nous. Donc, son cas, lui, est à part. C'est faux. Jésus était à 100% homme. Donc, il a subi les mêmes tentations que nous. Les mêmes pressions, même plus que nous. Plus que nous. Les souffrances, plus que nous. Faire comme s'il était imperturbable, donc il était hors de portée de tout ça. C'est pourquoi il s'en est sorti. C'est faux. Donc, il avait une nature comme une nature d'ange, quoi. C'est faux. Il était physiquement comme nous. D'ailleurs, c'est écrit dans 2 Jean. On va lire ça dans 2 Jean. Celui qui dit que Jésus-Christ n'est pas venu en chair, c'est l'Antichrist. Il était 100% dans la chair, en chair. De Jean, verset 7.
De Jean, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist.
Amen. C'est le séducteur et l'antéchrist. Ils veulent dire que Jésus n'était pas physique. Il était comme un objet spirituel. Du coup, il n'a pas vécu les tentations comme nous. Il n'a pas vécu les souffrances comme nous. Et donc, du coup, on n'est pas censé l'imiter lui, puisque lui, il était hors système. C'est faux, Jésus était comme nous. Sauf que lui n'avait jamais péché. Il n'a jamais péché. Mais il était comme nous. Et c'est pourquoi il avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour vaincre. Puisque Dieu, selon Philippiens 2, lui a retiré momentanément la gloire divine pour qu'il soit comme nous, un homme rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en lui qui le rendait vainqueur, comme le Saint-Esprit aussi peut nous remplir. Voilà. De sorte que Jésus soit notre modèle. Tout tourne autour de la jalousie contre Jésus. Soyez attentifs à ça. Vous allez remarquer que tout tourne autour de ça. Et même quand nous voulons expliquer certaines choses et qu'on dit que Jésus a le contrôle, il y a des gens qui sont insatisfaits. Ils veulent qu'on dise que nous, on a la puissance. Oh. Si tu lui dis que bon, on va prier au nom de Jésus, Jésus va faire, tu sens l'insatisfaction dans la personne qui est en face de toi. Elle aurait aimé que tu dises, je vais prier pour toi. Dieu va se servir de ma main. Oh. Si tu dis, je veux prier pour toi et Jésus va faire, on sent que, bon. Pourquoi vous êtes contre Jésus? C'est lui loin de l'Éternel. C'est lui à qui Dieu a donné tout le pouvoir. C'est lui. Donc, on le cite, ne doit pas gêner un chrétien. Certains trouvent qu'on le cite exagérément. Mais oui, mais c'est à lui qu'a été confié le règne. Ésaïe 9. Car un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Où est le mal? Pourquoi attaquer loin de l'Éternel? Ça, le psaume 2 est un grand psaume qui nous présente clairement le Messie. Et les gens disent, brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Donc les gens ne veulent pas. Ils ont l'impression que Dieu les enchaîne. Les humains veulent être libres, mais libres pour finir où? En enfer. Libres pour finir où? Mais Dieu t'a lié en quoi? Dieu te prévient juste que devant il y a un danger. Où est le problème? Le feu rouge, ça t'empêche de vivre. Le feu rouge est là pour réguler la circulation, pour permettre d'ailleurs que tu circules beaucoup plus à l'aise. Le feu rouge n'empêche pas de conduire. Donc que Dieu mette des lois pour nous garder bien longtemps et ensuite nous amener au ciel. En quoi c'est enchaîné? Qu'il y ait des cours à l'école pour permettre qu'on connaisse, qu'on ait des diplômes et qu'on soit quelqu'un dans la vie. Où est le mal dans ça? Donc maintenant, quand Dieu donne sa parole pour nous donner le conseil qu'il faut, pour nous permettre de vivre heureux et ensuite d'aller au ciel, on dit qu'il nous enchaîne, il nous lie. Non, il ne nous lie pas. Il nous aime. Il nous prévient du danger. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que maintenant, les enfants sont devenus des enfants rois. Les parents les laissent dans tout ce qu'ils peuvent avoir comme envie. On dit qu'il ne faut pas les brider, il faut les laisser. Et qu'est-ce qui s'est passé en Suède? Tous les enfants ont voulu devenir, les garçons ont voulu devenir des filles, et les filles veulent devenir des garçons. Ils en ont changé combien en leur donnant les hormones. Mais là, une loi vient de passer, c'est fini. On ne doit plus donner des hormones aux enfants qui veulent devenir, aux garçons qui veulent devenir filles, ni aux filles qui veulent devenir garçons, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est des crises, c'est des enfantillages, c'est des caprices. Et comme nous avons des parents aujourd'hui qui ont décidé de ne plus mettre de cadre aux enfants, de ne plus mettre une ligne de conduite aux enfants, de ne plus éduquer les enfants, eh bien, ces parents-là ont laissé ces enfants-là prendre ces hormones, même l'État lui-même a pris conscience. C'est l'État qui prend conscience qu'il y a un problème. On a beaucoup de plaintes d'enfants ou bien beaucoup de retours. Un enfant qui, à l'âge de 10 ans, dit « Je suis un garçon, je ne suis pas une fille, j'ai juste un corps de fille, je veux devenir garçon. » Et puis, vers l'âge de 14 ans, il dit « Non, 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 je m'étais trompé, moi je suis une fille. » Voilà. Il y a de beaucoup « Je me suis trompé » à tel point que les Suédois ont dit « Non, 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 on arrête avec ces jeux-là. On arrête. » Tout ça parce qu'on ne veut pas de cadre. Dieu met un cadre. Il envoie son fils pour nous amener dans ce cadre-là. On dit « Ah non, 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 nous on veut vivre libre. » Mais qu'est-ce qui est dit au verset 4 ? « Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. » Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Quand il va avoir le tremblement de terre, tsunami, là, les gens sont épouvantés. Inondation, éruption volcanique. Dieu leur, tornade, Dieu leur parle pour dire, regardez, c'est moi le chef. La puissance de la nature. Verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne, sainte, voilà, la prédiction sur le Messie. C'est moi qui ai oint mon roi. Voilà, le roi Messie, le roi oint. C'est ça d'où vient la doctrine sur le Messie, d'où vient l'idée qu'il y a un roi Messie, le Messie que tout le monde attend, que nous on a déjà vu en Jésus et qui reviendra. Et le verset 7 confirme ce que nous disons. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, ça c'est maintenant le Fils qui parle, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et les témoins de Jéhovah, puisqu'ils ne croient pas que, ils ne croient pas au Fils de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu, et d'autres, hein, il n'y a pas que les témoins de Jéhovah, non, ils ne croient pas que Jésus soit Dieu. Voilà, donc ils disent, il est fils de Dieu tout simplement, mais il n'est pas Dieu. Parce que, disent-ils, il a un commencement. Et parfois, donc, ils citent ce verset, on dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Et c'est que ces témoins de cette religion-là ne comprennent pas, c'est que Dieu n'a pas de temps. Son aujourd'hui, c'est toujours son temps. Voilà. Donc, l'aujourd'hui de Dieu est tout le temps. Et on ne peut pas engendrer quelque chose qui n'existait pas. Donc, quand Dieu engendre, c'est que la chose existait en lui. Voilà. Quand tu engendres, par exemple, on t'ouvre le ventre et tes viscères sortent, mais ce sont des choses qui étaient déjà en toi. Tu engendres ce qui était déjà en toi. Et donc le Fils était déjà dans le Père et a toujours été dans le Père parce qu'il est éternel. Et d'ailleurs, il y a eu un débat entre Jésus et les pharisiens. Et les pharisiens, eux, ils ont compris ça. Que quand Jésus accepte qu'il est fils de Dieu, donc il se dit Dieu en quelque sorte. Parce que les pharisiens ont compris que le fils de Dieu ne peut être que Dieu. Le fils unique, hein, le fils avec grand F. On ne parle pas de fils image, que quand parfois Dieu appelait les enfants d'Israël ses fils. Bon, c'est une image. Comme nous on peut dire fils de la France. Fils de la terre, voilà. Mais si c'est vraiment le Fils, ça veut dire qu'il existe en même temps que Dieu, et puisque dans la nature de Dieu, qu'il ait un Fils, puisque lui n'a pas de temps, c'est que s'il est Dieu lui-même. Et donc, les pharisiens ont compris ça. Donc, quand il dit « Je t'ai engendré aujourd'hui », c'est dans l'aujourd'hui de Dieu. Donc, il faut se mettre à la place de Dieu. Voilà, le Fils est présenté clairement, là. Clairement. Et beaucoup souvent disent « Mais pasteur, alors pourquoi les Juifs ne voient pas ça ?» Oui, ils voient ça, mais ils sont voilés. Et la plupart ne voient pas non plus, puisque les rabbins les empêchent de lire ce genre de passage. Verset 8. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » Nous voyons les extrémités de la terre pour possession. « Tu les briseras avec un verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Donc on voit deux parties. Première partie, les nations comme héritage, ça veut dire tous les sauvés qui vont être retirés des nations. Toute l'Église qui va être retirée des nations, c'est l'héritage de Jésus. On voit ça aussi dans Hébreux 12. On dit que dans la joie qui lui a été proposée, il a accepté d'être crucifié, il a accepté la honte de la crucifixion à cause de cette joie-là qu'on lui a promis au verset 8. Dans Hébreux 12, c'est dit, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » À cause de cet héritage, il a accepté la croix. Il a voulu sauver toute l'humanité. Voilà. Donc, on voit l'idée de Dieu, dès l'Ancien Testament, de sauver toute l'humanité. Toute l'humanité, pas seulement les Juifs. Demande-moi les nations. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Héritage, ça ne veut pas dire frapper, tuer des gens. Non, ce n'est pas le jugement. C'est le salut. Et les extrémités de la terre pour possession. Et maintenant, il y a la deuxième partie concernant la fin du monde. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Là, nous voyons le royaume de 1000 ans. Voilà. Donc, tout ça est dans ce psaume 2. C'est un psaume très, très riche. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous conseille à nous, les gens de la terre? Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Les grands de cette terre, juges de la terre, recevez instruction. Humilions-nous tous, bien-aimés. Si tu te crois grand, reconsidère tes voies. Comporte-toi avec sagesse. Humilie-toi devant le Fils. Voilà, qu'est-ce qui est écrit? Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Donc, réglez le problème avec le Fils. Règle ton problème avec le Fils de Dieu. Répare avec lui. Puisque si lui s'irrite contre toi, tu n'as plus de possibilité de salut. Arrange avec le Fils de Dieu. Arrange avec lui. Et de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Le jugement s'approche. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Heureux tous ceux qui se confient dans le Fils. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament, on parle du Fils. C'est grave, hein? Ça montre comment la Bible est complète et cohérente. On est dans l'évangile de l'Ancien Testament. On parle du Fils qu'il faut arranger avec lui. Et c'est ce qui est dit dans le Nouveau Testament. Il faut se laisser sauver par Jésus pour échapper au jugement. Arrange avec Jésus. De peur qu'il ne s'irrite. Qu'il soit pour toi le sauveur et non un juge dans bientôt. Voilà sur quoi nous clôturons aujourd'hui. Oui.
Il y a deux questions Internet. Premier, les méchants dont le premier chapitre parle, fait-il allusion aux non-chrétiens?
Oui, voilà, à tous ceux qui ne sont pas de Dieu, oui.
Est-ce le fait de dire que j'appartiens à Jésus n'est pas comme dire que je suis chrétien, je suis de Christ ou encore je suis pour Jésus quand on discute avec d'autres chrétiens?
Je n'ai pas compris.
En fait, je crois que c'est par rapport au témoignage que tu disais lorsqu'on vous a dit de prier, toi tu as dit d'abord que moi je suis de Jésus et ça provoque.
Non, pas je suis de Jésus, j'appartiens.
Voilà. Donc l'internaute pose, est-ce le fait de dire que j'appartiens à Jésus n'est pas comme dire, est-ce que c'est pas comparable à dire je suis chrétien, je suis de Christ ou encore je suis pour Jésus quand on discute avec d'autres chrétiens?
Non, il y a des dimensions. Non, quand on discute avec d'autres chrétiens, moi, il y a des dimensions. Nous sommes dans. Moi, je ne savais pas. Plus tard, j'ai compris que ce genre de prière était quelque chose de démoniaque. Mais au moment où moi je dis ça, moi je ne sais pas. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que cette prière-là n'est pas. Voilà, ça ne me plaît pas à 100%. Je peux faire une erreur en la faisant, mais je dis à l'avance, à toutes les forces présentes, sachez que moi, je suis à Jésus. Donc, personne ne peut m'entraîner dans son truc. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Je suis à Jésus, et donc personne ne peut m'entraîner dans son truc à lui, puisque moi, je suis à Jésus, j'appartiens à Jésus, je suis dans sa main. Voilà ce que j'ai voulu dire, mais en résumé, j'appartiens à Jésus. Et je pense que lui a compris ça, parce qu'il s'est fâché. Voilà, c'est ça quoi. Nous allons, c'est pas un truc à dire à tout bout de champ aux chrétiens, mais aux chrétiens entre nous, on est des enfants du Père. Je ne vois pas pourquoi je veux le dire, mais là, il y avait une circonstance qui faisait que bon, je devais m'affirmer mon appartenance à Christ pour être couvert de toute autre intrusion. Voilà. Seigneur, nous prions que tu nous aides à arranger avec le Fils, à ne pas nous croire sages, à ne pas nous croire rois, à ne pas nous croire chef, mais à arranger tout avec le Fils, à nous incliner devant le vrai chef qui est le Fils, à nous incliner, à l'embrasser comme c'est écrit, baiser le Fils. Donc comme les gens, ils baisaient les pieds ou parfois les mains des autorités pour manifester leur soumission. Seigneur, nous voulons faire la même chose avec le Fils. Nous nous inclinons devant lui encore ce soir. Nous voulons juste être ses serviteurs et non pas prendre sa place. Merci Seigneur de nous aider lorsque nous sommes face au verset biblique, face à la parole de Dieu, face à ce que Jésus a dit, face à son exemple, qu'on ne fasse pas de polémique inutile, qu'on s'incline tout simplement. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Au nom de Jésus, merci Père pour tout. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.